La première,
22h, 23h.
Oui.
Par oui dire.
Oui, oui.
Pascal Tison.
Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, non per vivere per niente.
Dis-moi.
C'est un art.
Par oui dire.
Qu'est-ce qui va mal encore?
Elle là, viens. Elle là, ça veut dire viens.
Au Pellegrinos, il est au mialo du anthropo.
On marche sur des œufs.
Some come by wind.
Ouvrir le monde. De Pasolini, on ne retient souvent que le cinéaste des dernières années, alors qu'il fut aussi et avant tout un grand poète. Un grand poète dans tous ses domaines d'activité, il créait, il vivait en poète, multiple écrivain, essayiste, cinéaste, scénariste. Pasolini ne se résume pas à sa mort, à l'ignoble assassinat dont il fut la victime le 2 novembre 1975, il y a 40 ans. Un anniversaire pour écouter la série que lui avait consacrée Gregor Beck en 1997 et dont voici la première partie. Pier Paolo Pasolini, le fruit d'une improbable unité italienne, a dénoncé sans relâche une société corrompue et pervertie par ce qu'il définissait comme pire que le fascisme, car il y a pire que le fascisme, la société de consommation. Une parole qui reprend aujourd'hui toute sa sève et son sens.
Pasolini, la bestiale douceur de l'errance d'un chien, premier épisode, mes yeux blancs ne voulaient pas voir l'aurore de la nuit. Une série réalisée par Gregor Beck avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Communauté française de Belgique.
J'ai bu un verre d'eau à 3 heures du matin, pendant qu'Arezzo avait l'air d'être absolument indépendant. Une fois décidée l'omission des principaux devoirs, des poètes, des citadins, bien que je sache que son dieu la pratique est surréaliste. Comme le dit Euripide, la démocratie consiste en ces simples paroles. Qui a un conseil à donner à sa patrie? Ainsi, mes conseils seront d'une folle modération. Après ma mort, on ne sentira pas mon absence. L'ambiguïté importe tant que vit l'ambigu.
Nous voici à la gare de Bologne. Au quai numéro 1, une grande brèche vitrée donne sur la salle d'attente un souvenir d'une bombe des années 70. Plus loin, des carabinieri en uniforme qui pillent à large bord, ou des hommes d'affaires en costume, portables à la main ou déjà à l'oreille.
450 000 habitants. Capitale de l'Émilie-Romagne, depuis près d'un demi-siècle, elle offre aux siens le plus haut revenu moyen du pays, l'un des tout premiers d'Europe, et depuis des années est régulièrement classée par les hebdomadaires italiens en tête pour la qualité de vie. Commune libre avant l'an 1000, elle abolit le servage et la glèbe, première université d'Europe dès 1088, renommée pour le droit et la médecine, elle compte dès le XIIIe siècle des femmes dans ses rangs, étudiants et enseignants.
Passer les boulevards d'enceinte, les maisons deviennent jaunes. Partout, des portiques, sous lesquels des gens bien habillés font leur marché. Les échoppes sont opulentes, les vitrines sont luxuriantes. Sur la rue, des vélos, des Vespa, quelques autobus et des taxis, et beaucoup moins de voitures. En effet, le trafic est limité aux résidents du centre-ville.
Bologne n'est pas une ville typique de l'Italie. Elle est un cas unique.
Oui, un cas unique. Son anomalie est due au fait qu'elle s'est développée ces dernières années selon les normes désormais sacramentelles du développement de consommation. Mais en même temps, c'est une cité communiste. À toi, elle dit, admire. Je suis une opulente ville du Nord que le développement a rendue encore plus opulente. Opulente au point de ressembler à une ville française ou allemande. En outre, ici nous sommes communistes et donc propres et honnêtes.
Pitchy habite cette région qui s'appelle l'Émilie. Il est bien sûr communiste et tient un des restaurants les plus cotés de la région.
Pourquoi Bologne aujourd'hui est une ville de consommation? Qu'est-ce qui l'empêcherait de l'être? Il y a les moyens, il y a des sous, il y a du travail. L'Émilie a peut-être été la région d'Italie la plus riche depuis toujours.
C'est au mois de mai que j'arrivais à Bologne. J'occupais un appartement au 8e étage d'un énorme immeuble, situé un peu en dehors du centre-ville, à la Piazza dell'Unità. Piazza dell'Unità. C'était ici même qu'en 1990 fut annoncée la naissance du PDS, ou Parti démocratique de la gauche. Le parti communiste ne pouvait plus, suite à l'effondrement du régime soviétique, s'appeler communiste. Ce mot ne pouvait plus être assimilé à celui de démocratie. Et ironie du sort, c'est en ce lieu baptisé Place de l'Unité que commença la scission du parti communiste. Le PDS se positionnerait désormais plus au centre, alors que Rifondazione Comunista resterait fidèle à l'appellation et aux principes communistes.
En Italie, il y avait le parti communiste plus avancé, plus démocratique, avec une politique qui semblait la plus avancée du monde. Et ce n'était pas la plus avancée du monde. Parce que c'était fondé sur l'abandon des positions dans l'Union soviétique. Ce sont des dizaines et des dizaines d'années qu'on travaillait en rêvant d'échanger l'Union soviétique en la transformant en un pays démocratique. Ça, c'est pas possible avec la guerre des classes qu'il y a dans le monde. On n'a pas compris jusqu'au bout qu'est-ce que c'était la lutte entre deux systèmes. Ces deux systèmes pouvaient continuer à exister si on n'avait pas changé de rêve. L'humanité n'a plus un projet.
Édith Proie, prologue. Souvenir de l'enfance. L'adaptation observera à peu près les lois de la formation des rêves. Le générique est fait de lettres noires sur fond blanc. Pendant celui-ci, on entend.
Descendra dans le monde et tu seras candide et gentil, équilibré et fidèle. Tu auras une infinie capacité d'obéir et une infinie capacité de te révolter. Tu seras pur. C'est pourquoi je t'ai maudit.
La vie, dans le souvenir, devient un film muet. Nous tous avons à l'esprit une image qui est la première ou une des premières de notre vie. Cette image est un signe, et pour être plus exact, un signe linguistique.
La première image de ma vie est un rideau, blanc, transparent, qui pend, je crois immobile, à une fenêtre qui donne sur une ruelle plutôt triste et obscure. Ce rideau me terrorise et m'angoisse, non comme une chose menaçante ou désagréable, mais comme quelque chose de cosmique.
Intérieure nuit. Dehors, on entend des grillons et une musique de danse des années 20. Gros plan d'un enfant qui se retourne dans son lit en appelant. Il regarde une fenêtre devant laquelle pend un rideau blanc. Il se lève, traverse la chambre et disparaît derrière le rideau blanc.
Les premières images qui concordent avec les rideaux sont une pièce avec une alcôve où dormait ma grand-mère, de lourds meubles, bien comme il faut, et dans la rue une voiture dans laquelle je voulais monter. Ces images sont moins douloureuses que celles du rideau. Toutefois, même en elles, représentées, c'est quelque chose de cosmique en quoi consiste l'esprit petit bourgeois du monde où je suis né.
De l'extérieur, plan du balcon. L'enfant s'avance jusqu'au garde-fou en fer forgé. Il s'y tient et regarde au travers. Vue d'ensemble d'une grande cour de ferme, c'est la nuit. Et dans un bâtiment à l'opposé, une fenêtre est illuminée. Sur un rideau translucide, on découvre l'ombre d'un homme et d'une femme qui dansent. L'homme embrasse la femme. Contre-champ de l'enfant sur le balcon, violente explosion. Vue du ciel au-dessus des maisons, il s'agit de feux d'artifice. L'enfant sur le balcon commence à pleurer en agitant sa main à travers le garde-fou. À nouveau, plan du ciel au-dessus des toits, les feux d'artifice continuent. L'enfant cache ses yeux derrière ses mains.
Ce que ce rideau m'a dit et enseigné n'admettait aucune réplique. Avec lui, aucun dialogue, ni aucun acte auto-éducatif n'était possible et admissible. Voilà pourquoi j'ai cru que tout le monde était le monde que ces rideaux m'avaient enseigné, c'est-à-dire que j'ai cru que tout le monde était comme il faut, idéaliste, triste et sceptique, un peu vulgaire en somme, petit bourgeois.
Pour comprendre un peu mieux les origines de son œuvre, nous nous rendons dans le Frioul, quelques années plus tôt. Le Frioul, coincé entre les montagnes autrichiennes et la mer, le petit village dans lequel nous arrivons s'appelle Casarsa della Delizia.
Casarsa della Delizia, mercredi 21 décembre 1920, premier jour de l'hiver.
De nombreux invités se sont réunis afin de fêter les noces de Susanna et de Carlo Alberto.
Carlo Alberto est né à la fin du siècle passé dans le palais Pasolini de Ravenne. Il descend d'une famille de la noblesse des États de l'Église.
Mais dès 1860, dans le mouvement mené par Garibaldi, Ravenne est rattaché au Piémont. Le professeur Renzo Barazzoni, écrivain et historien, nous remet en mémoire les événements qui, au XIXe siècle, ont permis la création de l'État italien.
L'État du pape a constitué une barrière parmi l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. Et toujours, l'unité d'Italie a été renvoyée parce que n'était pas possible entrer dans les domaines du pape Pieux IX. Dans les domaines diplomatiques, on a trouvé un mur insupérable. Le premier ministre du roi Victor Emmanuel II, au II, il a dit « Il faut profiter que Napoléon a été vaincu à Sedan. Donc, il ne peut plus être l'allié du pape. » En 1870, Napoléon cède Sedan à Sedan. Il est fait prisonnier. Alors, c'est le moment pour envahir l'état du pape. Et c'est pour cela que la question romaine vient résolue avec les armes.
Je suis originaire d'une famille typiquement représentative de la société italienne, un produit de l'unité italienne.
Alors, la question romaine dépend de cette position du pape qui excommunique l'état italien. Et dans ce moment, l'État et l'Église marchent chacun dans son ordre, souvent en opposition l'une à l'autre. Et l'Italie connaît des luttes assez féroces parmi cette, les Guelfi et les Ghibellini, comme dans le Moyen-Âge, on appelait dans chaque ville en Italie Guelfi les papistes et Ghibellini les suiveurs de l'empereur. L'État italien ramasse toutes les propriétés de l'Église. Mais le pape se déclare prisonnier de l'État italien. Les clercs provoquent une révolution qui s'appelle Brigantaggio Meridionale.
Carlo Alberto vit dans la nostalgie du patrimoine. Triste souvenir de terres et de palais.
Malchance ou impéritie, il dissipa le petit héritage de son père au jeu. Une seule issue pour ce fils de famille incapable d'exercer un métier, mais vaniteux de son nom et de son physique.
Le voilà militaire de carrière, d'abord en Libye, puis en 1915, quand l'Italie entre en guerre dans le Frioul, non loin de la frontière autrichienne. Sous-lieutenant, il est affecté à la garnison de Casarsa, le village de la famille Colussi.
Après les 1900, en Italie se forment les partis nationalistes favorables à l'entrée d'Italie dans la Première Guerre mondiale. D'autre côté, il y a les neutralistes, socialistes, catholiques, qui veulent que l'Italie gagne la guerre sur la table de la diplomatie. Et les interventistes gagnent la bataille d'entrer en guerre. La guerre a condamné pour la première fois ouvrières, paysans, employés, pour 4 ans dans la vie des tranchées. Et pour obtenir que les soldats restent dans les tranchées, il faut dire aux paysans, après cette guerre, vous aurez la terre. Quand vous verrez ouvriers, vous aurez le contrôle des usines. La guerre est finie le 4 novembre 1919. Le gouvernement doit respecter les promesses qu'il a faites. Ce sont les promesses qui n'ont pas été respectées. Et alors, on assiste en Italie à une grande bagarre. En plus, il y a une autre raison pour faire la révolution. Le 1917, c'est la date de la révolution russe. Et alors, il y a un mot d'ordre qui circule parmi les mouvements ouvriers. Il faut faire comme en Russie. Le Parti socialiste est divisé, partagé par les minimalistes et les maximalistes, c'est-à-dire réformistes et révolutionnaires. Et le résultat de cette division du Parti socialiste, c'est qu'il ne guide pas la classe ouvrière. Il abandonne à la spontanéité les mouvements populaires. D'autre côté, passe la contre-révolution en absence de la révolution. Les fascismes naissent pour ces raisons. La peur de la révolution sociale.
Groupe-plan sur le visage d'un militaire. C'est un jeune lieutenant. Il porte une casquette haute, une écharpe bleue en travers de la poitrine et des épaulettes dorées.
Il a une trentaine d'années. Cheveux bruns, trapus, très forts, et au milieu d'un visage déjà marqué, deux yeux sombres et brillants. Sous le sourcil broussailleux du gauche est enfoncé un monocle, donnant la touche finale à l'impeccable uniforme rappelant ses origines nobiliaires. C'est un homme taciturne, fier et courageux, et fasciste convaincu, défenseur de Mussolini.
Nous sommes déjà en présence d'une civilisation des masses. Les masses deviennent protagonistes de la politique. Et aussi le fascisme se préoccupe d'avoir une base en s'appelant aux combattants de la Première Guerre mondiale. Parce que les combattants n'étaient pas populaires. Le peuple disait « Mais pourquoi vous avez combattu cette guerre qui a été payée avec 60 000 morts pour ne pas obtenir notre revendication ?» On parlait alors de la victoire mutilée. Et cela a été un slogan qui est devenu populaire parmi les combattants. Et les premiers fascistes ont été ceux qui avaient combattu. Et Mussolini a fait appel aux combattants pour restituer à l'Italie une victoire non plus mutilée, mais une victoire entière.
Plan de la cour vide. Le militaire se tient debout à côté du landau. Groplan est contre-champ sur l'enfant assis dans le landau. Il regarde vers le militaire. Groplan sur le visage du militaire qui fixe l'enfant des yeux.
Regarde ses yeux.
Tu es ici pour prendre ma place dans le monde, me rejeter dans le néant et me voler tout ce que j'ai.
L'enfant baisse la tête et se couvre les yeux avec ses mains. Gros plan du militaire qui continue à regarder fixement l'enfant dans les yeux. Tout à coup, on entend des rires de femmes. Le militaire se retourne et regarde à sa droite. Plan de la porte de la ferme derrière un arbre en fleurs. Les jeunes femmes sortent en courant et en riant. L'une d'elles porte un chapeau blanc. À un moment, elle s'arrête et se retourne en riant vers le militaire. Elle reprend sa course.
Susanna Colussi, ma mère.
31 ans, un de plus que son mari, catholique, non pratiquante, elle descend d'une famille de paysans qui lentement ont accédé à la condition petite bourgeoise. Institutrice, elle a déjà enseigné pendant quelques années avant la guerre dans les classes primaires de la région.
Repoussé, il revint à la charge. On le vit foncer à Casarsa quelques jours après la fin du conflit. Il épousa ma mère presque de force. La force étant dans la brusquerie de ses manières, mais aussi dans la pression du village, des parents, des amis.
L'enfant baisse la tête et se couvre les yeux avec ses mains. Gros plan du militaire qui continue à regarder fixement l'enfant dans les yeux.
Ses yeux, durs, inquiets, à l'affût, deux meurtrières.
La première que tu me voleras, ce sera elle, la femme que j'aime. Et déjà, tu me voles son amour.
Après les noces, les époux quittèrent le petit village pour se rendre à Bologne. Eh bien, c'est au cœur de cette même ville que, le 5 mars 1922, naît Pier Paolo Pasolini.
Garibaldi, quel cretino di Mussolini che portava i pannolini. Ma un bel giorno rimase bagnato, lì nesnotte l'aveva fregato. Tutto il popolo scoppiò a risate e lui rimase con le braghe bagnate. E basta.
Octobre 1922, suite à la marche sur Rome, Mussolini est appelé par le roi Victor Emmanuel III à constituer le gouvernement qui régira le pays jusque dans les années 40.
Avec la marche sur Rome, les fascistes conquêtent le pouvoir. Parce que le roi, qui doit défendre la Constitution, il concède à Mussolini le gouvernement parce qu'il ne se méfie pas de ces fascistes qui sont surtout anticommunistes. Le roi ne peut pas concevoir d'être un communiste. Et le fascisme abandonne tout de suite l'esprit républicain pour adopter l'esprit monarchiste. Mussolini, il était socialiste pendant jusqu'à 1914, quand il devient interventiste. Il était socialiste révolutionnaire. Il se présente au roi comme un bourgeois. L'œuvre de Mussolini s'accomplit graduellement. Il appelle au gouvernement les catholiques, les libéraux. Il combat seulement la gauche. Après, Mussolini ignore la Constitution, les rois ignorent la Constitution. Alors, il faut mettre hors de la loi le Parti socialiste et le Parti communiste. Après, il adopte un tribunal spécial pour la défense de l'État. Après, il institue une milice volontaire pour la sûreté nationale. Après 1924, qui est l'année où Mussolini fait tuer le chef des socialistes, c'est-à-dire Giacomo Matteotti, le fascisme, l'Achille. Mais tout de suite, quelques mois après, Mussolini reprend la situation dans ses mains et annonce l'abolition du Parlement. Il annonce les lois exceptionnelles. Il annonce la fin de tous les partis. Et c'est comme ça qu'il commence la dictature en 1925, avec le discours du 2 janvier. En ce discours, il définit l'État totalitaire.
Pour Carlo Alberto, va commencer une vie chargée de fréquentes mutations. La famille va d'abord émigrer à Parme, en 1923, puis à Conegliano, en 1924, et l'année suivante à Belluno, où naîtra un deuxième enfant, Guido.
Très vite, entre Carlo Alberto et Susanna, les scènes de ménage deviennent courantes.
Les déménagements se succèdent. Après Belluno, Conegliano, où Pier Paolo, qui n'a pas encore 6 ans, est inscrit en première primaire.
En 1928, Carlo Alberto est arrêté pour dette de jeu. Les meubles de Conegliano sont déménagés à la hâte, dans la maison de Casarsa, où Susanna s'est remise à enseigner dans une école primaire située à une vingtaine de kilomètres. Pier Paolo passera pour la première fois une année entière dans le village maternel.
Dans un village près du tien, il y avait un balcon qui donnait sur une rue dans l'ombre et sur une vallée pleine de lumière, avec un fleuve. Je veux te le redire pour la millième fois. Sur ce balcon venait le fils de pauvre voisin. Pauvre aussi était sa beauté. Pauvre la blondeur de ses cheveux fins. Pauvre ses yeux larmoyants de chat. Et pauvre la vie dans son petit corps. Chaque jour il venait. Et je l'attachais au barreau du balcon. Chaque jour il pleurait. Chaque jour je lui disais que je le garderais là. Et qu'il ne reverrait jamais sa mère. Mon cœur durcissait comme un membre. Et il pleurait en ouvrant la bouche, sa bouche ridicule de pauvre, et se trempant de larmes. C'était l'été tout autour. Suspendu dans la lumière du fleuve, sa lumière qui donnait forme au silence des vies qui passent. C'était une protection où se défaisait la protection du giron maternel et celle des bras du père. Révélant les immensités du monde auquel appartenait cette immense vallée avec sa lumière.
...1929, Sachile. 1930, Idria. 1931, retour à Sachile, où il est refusé à l'examen d'entrée au gymnase pour un devoir qualifié trop poétique. En 1933, ils sont à Crémone, en Lombardie. Il y écrit des poèmes épiques et des tragédies en vers. Les vacances sont passées sur les plages de Riccione, puis à Casarsa. En 1935, Scandiano. 1937, retour à Bologne.
À Bologne, un jour, au lycée Galvani, un professeur d'histoire de l'art lit le bateau ivre de Rimbaud. À la lumière de cette découverte, toute la culture académique, provinciale, conformiste et fasciste, s'efface. À 15 ans, Pier Paolo reçoit pour la dernière fois la communion. Toutefois, il ne peut même plus concevoir qu'il soit possible de croire en Dieu.
Jusqu'à 15 ans, j'ai cru en Dieu avec l'intransigeance des enfants. L'adolescence augmentait la rigidité et le sérieux de ma fausse foi. Ma dévotion à la Vierge était caractéristique. J'ai provoqué en moi des fausses effusions de sentiments religieux, au point qu'à plusieurs reprises, je me suis persuadé que je voyais les images de la Vierge remuer et sourire. Et dans les brèves discussions sur la religion, j'étais un partisan déterminé. La plus grande angoisse religieuse et les premiers péchés considèrent. J'obéissais à mes tendances sans les juger. Les soirs avant de dormir, je faisais pénitence. J'ai récité des centaines d'Ave Maria.
À 17 ans, il entre à la faculté de lettres. Il fréquente un ciné-club où il voit les films de René Clair, Le Premier Renoir et quelques films de Chaplin. Enfin, il y a le sport. Il est capitaine de l'équipe de football de la faculté de lettres. Il joue au basket et l'hiver va skier. Les vacances sont passées à Casarsa. Là, il parle le frioulan, mais aussi le vénitien, qui est la langue de la bourgeoisie. Ainsi, il commence à écrire des poèmes en frioulan. L'après-midi, il part dans la campagne à vélo avec un chevalet de la peinture à l'huile et après les vacances, retourne à Bologne, à l'université.
Je n'ai pas dessus la tête de cette culture universitaire, faite de poussière et de palimpsestes.
C'est à ce moment que l'Italie entre en guerre suite à une grossière erreur d'analyse de Mussolini.
Un des plus grands délits du fascisme a été d'entrer en guerre sans connaître l'opinion des Italiens. Les Italiens ne savaient pas de quel côté notre armée se sera alliée. Avant la guerre, on disait, mais peut-être nous abandonnons comme dans 1914, nous abandonnons le nazisme, nous abandonnons Hitler pour passer à la démocratie. Les armées d'Hitler ont envahi l'Hollande, la Belgique, après la France. En ce moment, Mussolini, il a dit, c'est une guerre qui est déjà finie. Et alors, il faut que j'ai quelques morts sur le front français, quelques morts pour m'asseoir à la table de la paix, pour obtenir la Corse, pour obtenir Nice, pour obtenir la Savoie et aussi Malta, pour devenir signore, seigneur du Méditerranée. Et alors, les Italiens, d'un jour à l'autre, ont appris de Mussolini que nous entrons en guerre.
Extérieur jour, Bologne. Dans un parc, quatre garçons d'une vingtaine d'années sont assis sur une grande pelouse qui vient d'être tondue.
Serra, Leonetti, Roversi et moi sommes en train de couvrir une revue qui devrait sortir à la fin de la guerre.
Un homme passe à vélo, il est en civil. Doucement, il cherche des yeux. A-t-il besoin de parler? Il nous voit, il nous regarde, il se rapproche, il ne s'arrête pas. Il dit à voix basse, Hitler a envahi la Russie. C'est le 22 juin 1941 et nous étions en cette période de notre jeunesse hors du monde.
Mais un autre événement très important s'est produit dans ma famille. Papa est parti avant-hier pour Rome, d'où il continuera jusqu'en Aoi.
Aoi, colonie depuis 1936, Aoi, Afrique orientale italienne, capitale Addis Abeba.
En Afrique orientale, après un mois, deux mois, l'armée italienne a été défaite.
Casarsa, la vieille Casarsa, avec sa douzaine de maisons décrépites du XVIe siècle.
Les enfants de Casarsa ne peuvent plus se rendre à l'école à cause des bombardements. Ainsi, Pier Paolo et cinq de ses amis en ouvrent une petite munie de tous les règlements d'inscription et d'horaires. Mais après un mois, l'inspecteur d'académie de Udine envoie une sommation administrative et l'école doit être fermée. Néanmoins, les professeurs continueront à donner les cours chez eux.
Quand les Alliés étaient prêts à envahir la Sicile, Mussolini prononce les plus tragicomiques discours de sa vie politique. Il dit « Les Alliés ne gagneront jamais les plages de la Sicile. » Et l'armée alliée débarque en Sicile et elle se prépare à parcourir toute l'Italie. Et alors, en ce moment, le fascisme entre en crise.
Les événements de la guerre qui s'est précipitée firent mûrir en Pier Paolo l'idée dominante de la petite patrie du Frioul. Le texte de la proclamation a envoyé au maire et au curé du Frioul, il l'écrivit en quelques heures.
Il n'y a en effet personne qui ne voit combien un Frioul ethniquement et linguistiquement plus fort serait bien plus solide, plus frioulant et donc plus italien qu'un Frioul anonyme, errant, privé de conscience et corrodé par la Vénétie. Il faut qu'enfin se dégage au Frioul une poésie frioulane moderne qui sache sérieusement pourquoi elle existe.
« il color li fueris, il colore muart, sot il soleli calart, biondue alt, eris iera raris eris, la sanglum lusi il seil.
Un al vivut cula forza di
tium savinum tal cor del monde al chi deva a che puc somis col cognosseva tut papar amor padi che i caper in suvinis
cul suft al sol suft al comar
lui fina
socia falis telis cambias in luz.
Soti un tei, libi diverti, colara i talleri, vela me muart, ca dispiert, i tei se il soreli, i biesu di nus, a curaranta che nus, chi hai pena, pierdut, svuolam favor dalis quelis, cui risa il sor nebi.
Io i sarai ciamosovi con a blusa clara e i dolcia viei caplovin tal pulvarama.
Sare ciamo cial teu frut curint pal asfalt clipid al vial. Mi poi arana mal, tal green di cristal.
Mi poi arana mal, tal green di cristal.
Le doutes, qui gagne les autres hiérarchies du fascisme, que la guerre est déjà perdue. Et alors, dans le grand conseil du fascisme, il s'agit de décider si Mussolini possède encore ou non la majorité des fascistes. Et dans une historique séance du grand conseil du fascisme, Mussolini a été mis en minorité pour la première fois depuis 20 ans.
La machine à écrire pour taper les 300 exemplaires était celle de la Casa del Fascio. Le travail à peine commencé fut interrompu le matin du 26 juillet lorsque Pier Paolo, qui avait entendu la radio, vint m'annoncer la chute du fascisme.
Alors Mussolini s'est retiré de la vie publique. Et alors le roi a fait emprisonner Mussolini. Avant, dans l'île de Ponza. Après Ponza, il vient déporter au Grand Sasso, c'est-à-dire la montagne la plus haute de l'Apennin central.
J'ai senti en moi quelque chose de neuf surgir et s'affirmer, avec une importance imprévue. L'homme politique que le fascisme avait abusivement étouffé, sans que j'en eusse conscience.
Mais Hitler, il envoie un avion à délivrer Mussolini. Dès ce moment, Mussolini se réfugie au nord. Il constitue un gouvernement fantoche qui s'appelle République de Salò. Salò, c'est une petite ville sur le lac de Garda. Et Mussolini devient l'instrument des Allemands en Italie.
Le Frioul, occupé par les Allemands, a pris le nom de littoral adriatique. Les ponts qui relient les deux rives du Tagliamento sont souvent pris pour cible par les bombardiers alliés. Casarsa est traversée par des trains remplis de prisonniers qui se dirigent vers les camps de concentration allemands.
Son frère Guido participe à la résistance. Il entre avec quelques garçons du village dans une caserne, puis dans un train à l'arrêt pour y subtiliser des armes et des munitions. Des tracts de propagande antifasciste commencent à être distribués. Et l'enquête menée par les carabiniers les conduit à Pier Paolo qui est arrêté pendant quelques heures. Pourtant, un soir, les fascistes viennent arrêter Guido. Sa grand-mère, Giulia, s'agenouille devant les militaires pour les supplier de le libérer. mais le commandant de la troupe lui pointe un revolver dans le dos jusqu'à ce que Guido soit monté dans le camion qui l'emmène. Après quelques jours d'interrogatoire et de passage à tabac, Guido revient à pied de Pordenone. Quelques jours après, la grand-mère meurt du choc qu'elle a subi.
À partir de les premiers mois de 1944, se forme dans l'Italie septentrionale le mouvement partisan. La résistance, qui est formée de vieux antifascistes, mais surtout de jeunes.
Guido va alors prendre des contacts avec les partisans et fin mai 1944, il part dans les Alpes où il s'inscrit au Parti d'Action.
Lors d'une promenade, Pierpaolo arrive à Verzutta, petit hameau à 2 km de Casals. Là, il demande une chambre à louer et s'y installe avec sa mère.
À Verzutta, il y a une vingtaine d'enfants qui ne peuvent plus se rendre à l'école à cause du danger. Pierpaolo et sa mère deviennent leurs instituteurs.
Je faisais cours dans notre unique pièce, où l'on s'est serré autour du bureau et de deux tables. Les élèves étaient en nombre de 8 ou 9. Ce fut une grande distraction pour moi, et cela finit par devenir une joie.
Le professeur Roberto Villa, directeur du lycée scientifique Aldo Moro à Reggio Emilia, s'est particulièrement intéressé à cette expérience pédagogique de Pasolini.
L'enseignant de Pasolini est un monstre, c'est-à-dire c'est une personnalité atypique. Pourquoi c'est un monstre? Parce que naturellement, il doit avoir beaucoup de culture, mais ne peut la transmettre que s'il est rempli de eros, dans le sens platonique du terme. Ensemble, l'enseignant qui n'est pas animé d'une grande passion ne réussira pas à transmettre quoi que ce soit. Et puis, il doit être un peu poète, un peu comédien.
Même les souvenirs des formations des bombardiers, qui 6 fois au moins, sous nos yeux, bombardèrent Casarsa, à guère plus d'un kilomètre de nous, n'aimaient pas désagréable. Et nous, on y assistait devant la porte de notre poétique petite école.
Le 25 d'avril de 1945 signe la chute du fascisme et du nazisme en Italie, avec l'exécution de Mussolini quand il s'enfuit vers la Suisse.
C'est peu avant la fin de la guerre que son frère Guido meurt dans des combats entre groupes de partisans, certains s'étant ralliés à Tito, les autres, comme Guido, restant défenseur du drapeau italien.
Premier voyage d'après-guerre, Pierpaolo le fait à Bologne afin de passer ses derniers examens et soutenir son diplôme de maîtrise. C'est là aussi qu'il retrouve son père de retour du Kenya. Ensemble, ils rentrent à Verzutta.
Avec la fin du fascisme commença la fin de mon père. Cette histoire du fascisme est un alibi avec lequel je justifie ma haine, injuste pour ces pauvres hommes. Et je dois dire pourtant que c'est une haine horriblement mêlée de compassion.
Pasolini,
la bestiale douceur de l'errance d'un chien. Conception, réalisation et commentaires de Grégor Beck, assisté de Frédéric Collignon, prise de son Hélène Lamieux-Rousseau, montage et mixage Christophe Blitz, avec les voix de Sammy Birnbach, Frank Bale, Tom Goldschmidt, Véronique Guérin, Mario Bonatto, Jean-Yves Mangnier et Emma Prosdocimo, et les interventions de Gianni Totti, Picci et Roberto Villa. Les commentaires historiques étaient du professeur Renzo Barazzoni et les doublages de Fiorenza Barazzoni. Remerciements particuliers à Laura Betti, Giovanna Marini, Stéphanie Perrin, Éric Deleu et Donato Prosdocimo. Une série produite par l'association Acrosticos, réalisée avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Communauté française de Belgique, la Radio Suisse romande et Radio Campus Bruxelles.
Rendez-vous sur la plateforme Par-delà les ondes pour de nouvelles découvertes sonores. À très bientôt.
Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.